Chers amis auditeurs, nous nous retrouvons encore une fois pour méditer ensemble la parole de Dieu. Pendant plusieurs semaines, nous avons médité les différents épisodes de l'histoire de Moïse, car peut-être vous avez compris, j'aime beaucoup l'histoire de Moïse. Je la vois comme l'histoire de chaque être humain. Aujourd'hui, nous laisserons Moïse pour poursuivre l'histoire de salut avec Josué. Mais avant de les quitter, regardons les derniers épisodes de sa vie. Nous les laissons sur la montagne Nebo en face de Jéricho, quand Moïse délègue Josué pour faire entrer les peuples d'Israël dans la terre promise. Et notre cher Moïse observe son peuple marcher vers la terre promise et lui-même ne peut pas y accéder. Écoutons ces passages du livre de Deutéronome, chapitre 34, les versets de 4 à 12.
Yahvé lui dit, « Voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob en ces termes. Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. C'est là que mourut Moïse, serviteur de Yahvé, en terre de Moab, selon l'ordre du Seigneur. Il l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, et jusqu'à ce jour, nul n'a connu son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Son œil n'était pas éteint, ni sa vigueur épuisée. Les Israélites pleurèrent Moïse 30 jours dans les steppes de Moab. Les jours des pleurs pour le deuil de Moïse s'achevèrent. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. C'est à lui qu'obéirent les Israélites, agissant selon l'ordre que Yahvé avait donné à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que Yahvé connaissait face à face. Que de signes et de prodiges Yahvé lui fit accomplir au pays d'Égypte contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Quelle main puissante et quelle grande terreur Moïse avait mise en œuvre aux yeux de tout Israël.
Moïse n'est jamais entré en terre promise, mais il est entré au ciel. Nous lisons que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le tombeau de Moïse. On dit, et moi je crois, que c'est le premier qui a été élevé au ciel. Et c'est pour cela qu'on ne trouvait pas son tombeau. Nous lisons que Moïse avait 120 ans et sa vue n'avait pas baissé et sa vitalité n'avait pas diminué. Cela veut peut-être dire tout simplement qu'il ne portait pas de lunettes et qu'il était autonome physiquement même avec son âge. Mais je crois que cela veut dire aussi que Moïse, qui a vu Dieu face à face, avait les yeux remplis de lumière divine. Moïse voyait clair la volonté de Dieu, sa présence, son œuvre dans l'histoire du peuple d'Israël. Moïse porte en lui la vie de Dieu. Même à 120 ans, il est jeune de cette jeunesse éternelle qui est la vie divine. Chers amis, contemplons le plus souvent les visages de Dieu en Eucharistie. Aiguisons notre vue en lisant la parole de Dieu. Et regardons au-delà de nos projets, de nos buts, comme Moïse, qui n'a pas fixé son regard sur la terre promise, mais sur la terre promise que Dieu, qui est Dieu lui-même en personne, c'est-à-dire le ciel. Et comme ça, nous laissons Moïse et nous retrouvons Josué, celui qui a reçu la mission de faire entrer le peuple juif en terre promise, en terre de Canaan. Il faut savoir que le livre de Josué, en grec, s'appelle le livre de Jésus. Josué et Jésus, c'est le même nom. Origène, un père de l'Église, dit que le livre de Josué, c'est une parabole de ce que Jésus va vivre et réaliser. En effet, si nous pensons bien, c'est Jésus qui amènera le peuple de la terre en terre promise, en ouvrant le paradis. Pour les Juifs, Dieu a choisi comme terre promise la terre de Canaan, terre déjà occupée par d'autres peuples. Alors l'histoire de Josué, c'est une histoire de combat, de guerre, pour réaliser la promesse de Dieu. C'est très intéressant d'observer ces choix de Dieu qui pouvait trouver une terre inoccupée, déjà prête, parfaite, pour Israël comme terre promise. Mais non. La terre promise, il faut la conquérir. La terre promise, il faut la gagner. Il faut se battre pour y accéder. C'est tout un parcours spirituel de chacun de nous. Dieu nous promet la terre promise, c'est le ciel. Mais pour y accéder, notre vie est faite de combats spirituels et non seulement spirituels. Je vous propose d'écouter maintenant l'histoire d'une de ces batailles menées par Josué et son peuple. Je pense que c'est une histoire la plus connue du livre de Josué. Nous partirons du chapitre 5, verset 13, et nous continuerons la lecture jusqu'au chapitre 6, au verset 25.
Or, Josué, se trouvant à Jéricho, leva les yeux et vit un homme qui se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. Josué s'avança vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de Yahvé et maintenant je suis venu. » Josué, tombant la face contre terre, l'adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de Yahvé répondit à Josué « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. » Et Josué fit ainsi. Or, Jéricho s'était enfermé et barricadé contre les Israélites, et personne n'en sortait et personne n'y entrait. Yahvé dit alors à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, Jean d'Élite. Vous tous, les combattants, vous contournerez la ville pour en faire une fois le tour, et pendant 6 jours tu feras de même. » 7 prêtres porteront en avant de l'arche 7 trompes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne de bélier retentira, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple poussera un grand cri de guerre. Et le rempart de la ville s'écroulera sur place. Alors le peuple montera, chacun droit devant soi. Josué, fils de Noun, appela les prêtres et leur dit « Prenez l'arche d'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompes en cornes de bélier en avant de l'arche de Yahvé. » Puis il dit au peuple « Passez et faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de Yahvé. » Il fut fait comme Josué l'avait dit au peuple. 7 prêtres portant les 7 trompes en cornes de bélier devant Yahvé passèrent et sonnèrent de la trompe. L'arche de l'alliance de Yahvé venait après eux. L'avant-garde précédait les prêtres qui sonnaient de la trompe et l'arrière-garde venait après l'arche. On allait et l'on sonnait de la trompe. Au peuple, Josué avait donné l'ordre suivant. « Ne criez pas et ne faites pas entendre votre voix, qu'il ne sorte pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « poussez le cri de guerre ». Alors vous pousserez le cri de guerre. » Il fit faire à l'arche de Yahvé le tour de la ville en la contournant une fois. Puis on rentra au camp où l'on passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres prirent l'arche du Seigneur. Munis des 7 trompes en cornes de bélier, les 7 prêtres marchant devant l'arche de Yahvé sonnaient de leurs trompes pendant la marche, tandis que l'avant-garde allait devant eux, l'arrière-garde à la suite de l'arche de Yahvé, et que l'on défilait au son de la trompe. On fit le tour de la ville le second jour, une fois, et l'on rentra au camp. C'est ainsi que l'on fit pendant 6 jours. Le 7e jour, s'étant levé dès l'aurore, ils firent le tour de la ville, selon le même rite, 7 fois. C'est seulement ce jour-là qu'on fit 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, les prêtres sonnèrent de la trompe, et Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, car Yahvé vous a livré la ville. » La ville sera vouée par anathème à Yahvé avec tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, ainsi que tous ceux qui sont avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les émissaires que nous avions envoyés. Mais vous, prenez bien garde à l'anathème, de peur que, poussé par la convoitise, vous ne preniez quelque chose de ce qui est anathème, car ce serait rendre anathème le camp d'Israël et lui porter malheur. L'argent, l'or et les objets de bronze et de fer, tout cela sera consacré à Yahvé, cela entrera dans le trésor de Yahvé. Le peuple poussa le cri de guerre et l'on sonna de la trompe. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un grand cri de guerre et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt le peuple monta vers la ville et chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux taureaux, aux moutons et aux ânes, les passant au fil de l'épée. Josué dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, « Entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme avec tous ceux qui lui appartiennent ainsi que vous le lui avez juré. » Ces jeunes gens, les espions, s'y rendirent et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils en firent sortir aussi tout son clan et les mirent en lieu sûr en dehors du camp d'Israël. On brûla la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'on livra au trésor de la maison de Yahvé. Mais Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient, Josué leur laissa la vie sauve. Elle est demeurée au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui pour avoir caché les émissaires que Josué avait envoyés espionner Jéricho.
La première ville de la terre promise qu'Israël devait conquérir était Jéricho. Une ville bien fortifiée et défendue par une forte armée. La question de sa conquête avait préoccupé Josué depuis longtemps, avant qu'Israël ne passe par le Jourdain, au début du livre de Josué. C'est à ce moment où Josué décide aussi d'envoyer les espions à Jéricho pour qu'ils voient, observent et choisissent la tactique qu'on pourrait adopter pour cette bataille. Mais les habitants de Jéricho avaient deviné qu'Israël enverrait les espions. Ils les avaient traqués et sans Rahab, la prostituée, qui avait caché les espions et mené la poursuite sur une fausse piste, il aurait péri. Cependant, Dieu a prévu la conquête de Jéricho d'une manière complètement différente, qui n'avait rien à voir avec une stratégie militaire. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Car en lisant cette histoire, je me suis posé la question, pourquoi Dieu a-t-il révélé sa stratégie pour conquérir Jéricho si tard? Quand Israël était déjà proche du mur de la ville, pourquoi avait-il exposé Josué et ses collaborateurs à de longues journées à ruminer, à élaborer des stratégies? Pourquoi a-t-il permis d'envoyer des espions à Jéricho en risquant qu'ils perdent la vie? Combien d'efforts, d'inquiétudes, de temps perdu? Eh bien, je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse à cela. Et cette réponse s'appelle Rahab. Si Dieu laissait faire Josué et son armée, Josué aurait détruit toute la ville et tous les habitants. Mais Dieu, lui, il veut sauver Rahab. Donc il intervient. Livre de Josué nous dit « Celle Rahab, la prostituée, aura la vie sauve. » La logique de Dieu est tout simplement délicieuse. Regardez combien de personnes engagées, de soins et d'efforts Dieu a déployés pour sauver une femme et en plus une prostituée. Pour l'Ancien Testament, l'histoire de Rahab se termine ici avec l'histoire de Josué. Mais les paroles de la Bible, du même livre, Rahab la prostituée est demeurée au milieu d'Israël jusqu'aujourd'hui, mais ces paroles ressemblent à une prophétie. Car nous trouvons Rahab dans les premiers versets du Nouveau Testament comme l'une des quatre femmes dans la généalogie de Jésus. Puis nous la retrouvons aussi dans la lettre aux Hébreux et dans la lettre de Saint Jacques. Rahab devient pour les croyants un exemple de foi et de confiance à Dieu dans les circonstances les plus défavorables, y compris la pauvreté morale la plus extrême. Il est étonnant et merveilleux de voir comment Dieu aime l'homme. Comme dans chaque nation, Dieu chérit toute personne qui le cherche en vérité. Même si cette personne n'a pas de valeur aux yeux du monde. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, comme ce qui est sombre et déchu, Dieu transforme en lumière et l'élève à la dignité royale. Je crois que l'histoire de Rahab est extrêmement importante pour chacun de nous et pour notre époque de néopaganisme. Cette histoire nous aide à renouveler la confiance que Dieu trouvera ceux qui le cherchent, même s'ils sont plongés dans les ténèbres effrayantes. Comme Dieu a cherché Rahab pour la sauver, il me cherche et il te cherche. Dans la conquête de Jéricho, je pense que spontanément nous nous plaçons du côté d'Israël et nous regardons Jéricho comme un symbole du mal, comme un obstacle à enlever sur notre chemin vers la terre promise. Et c'est juste comme positionnement. Mais je pense que nous pouvons nous placer aussi de l'autre côté, comme les habitants de Jéricho, qui n'ont pas envie d'être dérangés, qui veulent se défendre contre tous ceux qui sont inconnus, étrangers. Les habitants de Jéricho sont une image de la façon dont l'homme peut se défendre devant Dieu avec un mur d'incrédulité et de péché. Et quel mur! Les archéologues disent que cette ancienne ville était entourée d'un double mur. Intérieur, environ 4 mètres de large, et extérieur, 2 mètres de large et estimé à environ 9 mètres de haut. Impressionnant! Quelle protection! Oui, chers amis auditeurs, je pense qu'au très fond de notre cœur, nous pouvons retrouver ces murs, larges et hauts. En plus, je crois que souvent, nous nous sentons prisonniers de ces murs. Les murs de notre péché, d'incrédulité, de la souffrance, de la peur. Mur qui nous empêche à accueillir Dieu et son salut. Mais vous savez, pour Dieu, il n'y a pas de cas désespéré. Dieu, avec armée de sa grâce et avec sa tendre présence, entoure notre cœur pendant 7 jours, ou 7 semaines, ou 7 ans s'il faut, pour nous apprivoiser. Mais un jour ou l'autre, les trompettes vont sonner et nos murs crûleront pour laisser place à l'amour miséricordieux dans notre vie. Essayez d'imaginer cette armée d'Israël qui tourne tous les jours autour de Jéricho. C'était une procession assez étonnante. Il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait des prêtres qui sonnaient les trompettes, et derrière, tout un peuple, silencieux, calme, persévérant. Nous pouvons entrevoir dans cette scène la façon dont Dieu agit dans nos vies. Combien de mots qui reviennent très souvent, des situations qui se répètent dans nos vies, des circonstances qui nous entourent, qui nous bloquent presque, qui nous mettent en face de mur. Et tout ça pour qu'un jour, le 7e jour, ces paroles, ces personnes, ces situations puisse briser les murs de notre résistance et nous libérer pour une relation confiante avec Dieu. Aujourd'hui, derrière vos murs intérieurs, essayez de regarder l'armée de Dieu autour de vous. Cette présence de Dieu sous les signes dans votre quotidienneté. Il est présent. Il vous entoure, il envoie des messagers de sa parole, de sa miséricorde, pour qu'un jour, nous puissions faire confiance et les laisser entrer dans notre ville intérieure. Pour moi, le plus beau de cette histoire, c'est tout simplement Josué, toute sa personne. Il me console et m'encourage. Josué a été choisi par Dieu pour être un chef. C'est lui qui protège son peuple. C'est lui qui réalise la promesse de Dieu. C'était quelqu'un. Et Josué a pris au sérieux sa mission. Tout au long du livre de Josué que je vous invite de lire, nous voyons Josué qui prépare les batailles, qui prépare les stratégies militaires, qui marche, qui négocie. Et vous savez quoi? À chaque fois, au moment décisif, Josué ne fait rien. il ne fait rien, car Dieu ne les laisse pas faire. Toutes les batailles de ce livre, c'est Dieu qui les gagne, et non Josué, ni le peuple d'Israël. Comme dans la bataille de Jéricho. Josué, depuis des semaines, préparait son armée, sa stratégie. Et comment ils ont gagné? Par l'obéissance à Dieu et la force de la prière. Par des gestes très simples. Tourner une fois pendant 6 jours autour de la ville de Jéricho. Et le 7e jour, 7 fois entourer, faire le même chemin autour de Jéricho. Concrètement, ils n'ont rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. J'aime Josué car il me rappelle qu'au milieu de mes actions, mes agitations, mes projets, mes ambitions, tout cela n'a aucune valeur. Car c'est Dieu qui veut faire en moi et à travers moi. Josué a cette belle disponibilité de cœur et simplicité d'esprit de savoir abandonner ses propres projets pour laisser faire le Seigneur. Même si cela le dérange, même s'il ne comprend pas, même si cela le bouleverse, il laisse faire Dieu. Tout cela pour nous rappeler que la terre promise, c'est une terre qui a été promise par Dieu. Et c'est Dieu qui réalise sa promesse. Nous avons juste besoin d'obéir. Et peut-être c'est le plus compliqué. Seigneur Jésus, viens avec toute ton armée pour conquérir mon cœur, pour faire tomber les murs qui me séparent de toi. Donne-moi la grâce de l'obéissance à ta volonté. Vierge Marie, ma douce mère, accompagne-moi jusqu'à la terre promise. Amen.